Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Jacques Pessis, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de venir dans cette émission. Vous êtes journaliste, écrivain, scénariste, réalisateur, une personnalité française de la vie littéraire et mondaine, puisqu'on vous connaît notamment pour vos chroniques dans le journal Le Figaro, où vous êtes l'écotier vedette de la vie parisienne. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un livre qui sort aux éditions Omnibus. Il s'intitule « Les Français parlent aux Français » et veut commémorer le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, ce fameux jour où le général de Gaulle s'exprime pour la première fois pour demander aux Français de poursuivre le combat de la liberté. Vous avez rassemblé dans ce livre des chroniques, les chroniques de Radio Londres, qui commença à émettre ce fameux 18 juin 1940. Combien d'émissions avez-vous comptabilisé? Combien de chroniques? C'est énorme et c'est le premier tome.
Oui, le premier tome qui fait 1150 pages, le deuxième et le troisième feront chacun plus de 1600 pages. En réalité, entre le 19 juin 1940 et le 4 octobre 1944, il y a eu plus de 1500 soirs avec des chroniques qui représentent aujourd'hui plus de 50 000 pages. Et ces 50 000 pages, pour tout vous dire, elles étaient perdues. C'est-à-dire que je me suis aperçu il y a à peu près 3 ans que les chroniques de Radio Londres n'avaient jamais été éditées. C'est-à-dire qu'on connaissait Radio Londres à travers les messages personnels, les messages codés. Mais les messages codés, ça représente 2 jours simplement, le 1er juin et le 5 juin 44, lorsqu'il s'agit d'avertir les réseaux de résistants et les maquis que le débarquement va avoir lieu et qu'il faut saboter les trains, saboter les routes, faire sauter les ponts. C'est tout, point barre. À part ça, tous les soirs, pendant 1500 soirs, pendant 30 minutes, la radio de Londres, la BBC, a été le seul média donnant la vérité aux Français contre l'occupant et contre Pétain, Laval et ses acolytes.
Alors comment on retrouve toutes ces chroniques? Ça devait être éparpillé. Comment vous avez procédé?
Ah non, c'était d'une simplicité absolue. Ah bon? Ces chroniques avaient été, il y a à peu près 35 ans, grâce à la documentation française, mise sur des microfilms dans une bibliothèque de province. Malheureusement, ça a été rangé un peu n'importe comment, c'était en train de pourrir. Donc on a retrouvé non sans mal les microfilms, la bibliothèque, les microfilms, et tout a été mis sur DVD. J'ai aujourd'hui 16 DVD chez moi où il y a 50 000 pages, qui sont les 50 000 pages de texte de ces 4 années de guerre au quotidien, où on comprend vraiment la guerre au quotidien. Alors après, il a fallu les lire, mais aussi les remettre en français, parce que tous les soirs, pendant 4 ans, c'était des secrétaires qui ne parlaient pas forcément français, des volontaires qui remettaient ces textes en forme, qui les tapaient. Donc il y avait beaucoup de fautes de frappe, beaucoup de fautes de syntaxe, beaucoup de fautes de français.
Donc vous avez tout réécrit?
Tout a été remis en forme et surtout, il a fallu choisir les meilleurs textes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire raconter la guerre au quotidien. Parce que finalement, en toute immodestie, j'ai l'impression d'avoir compris le déroulement de la guerre entre 40 et 44 à travers ces chroniques. C'est-à-dire que sans la radio, il n'y aurait pas eu la résistance, il n'y aurait pas eu les maquis et les alliés n'auraient pas pu agir en manifestant de tous les côtés. Car grâce à la radio, grâce à la TSF, comme on l'appelait à l'époque, eh bien, on a pu avertir des gens qui résistaient discrètement mais qui ont mis du temps à résister. Quand on lit ces chroniques en 40-41, on s'aperçoit que bon, on a l'impression que la guerre va se terminer bientôt, on a l'impression que Hitler n'en a plus pour longtemps, puis on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. En octobre 1940, c'est-à-dire quelques mois seulement après l'appel du général de Gaulle, il y a seulement 7000 résistants en France. Personne. Et le véritable tournant, c'est en juin 1942, quand Laval déclare à la radio, à Radio Paris et à Radio Vichy, je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que ça nous permettra de lutter contre le bolchevisme. Et à ce moment-là, là, il y a un déclic qui se produit dans l'oreille des Français. C'est fini. Maintenant, c'en est trop et la résistance commence vraiment.
C'est passionnant. Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses? Est-ce que c'est un combat un peu à travers ces chroniques, un combat personnel peut-être?
Ah, c'est un combat permanent. Moi, c'est un combat d'historien pour la mémoire. Mais quand on lit ce que j'appelle ce qu'ont écrit ces soldats de Londres, c'est prodigieux. On a choisi les textes les plus émouvants, les plus forts. Il y a des choses qui m'ont beaucoup frappé, par exemple, les camps de concentration. On n'en parle pas avant 1942. Londres n'est pas au courant. René Cassin fait une allusion en 1941 dans un texte, mais c'est tout. Et on découvre ça parce que, bien sûr, Laval, Pétain et surtout l'occupant n'expliquaient rien du tout et il y avait une fausse propagande sur Radio Paris et sur Radio Vichy.
Qu'est-ce qui a initié ce projet? Au fond, quelle est la genèse de ce projet? Est-ce que ça faisait longtemps qu'il vous tenait à cœur?
Je suis le légataire universel de Pierre Dac. Pierre Dac a été l'un des Français qui parlait au français, et en retrouvant les textes et les chansons qu'il a écrits et lus au micro de Radio Londres entre octobre 43 et août 44, je me suis dit, mais où sont les autres textes? Et c'est comme ça que j'ai découvert la piste de ces textes en me disant, mais je ne comprends pas qu'aucun historien depuis 70 ans n'ait songé à publier ces textes-là. Alors, le travail n'était pas seulement de les publier, de les choisir, mais de les remettre dans le contexte historique, et surtout de raconter qui étaient ces héros de l'ombre. Et on a oublié qui sont Georges Boris, Jacques Bingen, l'amiral Muselier, René Cassin, on connaît à peu près son nom parce qu'il est au Panthéon, mais on ne sait absolument pas ce qu'il a fait pour De Gaulle. Maurice Schumann, Jean Oberlet, qui a écrit Radio Paris mort, Radio Paris est allemand, Maurice Van Oppès, Jean Marin, pourquoi était-il là? Ben tout ça, je l'ai retrouvé, et ça me paraît un document pour l'histoire, parce que dans mes jeunes années, l'histoire de France, l'histoire de la guerre de 44, nos parents en parlaient. Maintenant, elle est dans l'histoire, donc c'est un document pour les générations futures.
C'est un livre qui constitue, donc, comme l'on disait, le tome 1 des chroniques que vous avez rassemblées. Il est accompagné d'un petit livret dans lequel vous présentez la bataille de Radio Londres avec des illustrations. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'impact de la radio, le pouvoir des ondes à l'époque?
La radio, en 1940, on parle de TSF. Ça remplace la télé. C'est-à-dire qu'on est le soir autour du poste en bakélite, noir ou marron, et on regarde la radio comme on regarde la télé aujourd'hui. Et il y a, avant la guerre, de grandes émissions. Les premiers postes privés, le poste parisien, Radio Cité et quelques autres, ont inventé des émissions qui sont les ancêtres des émissions d'aujourd'hui. Il y a un crochet radiophonique comme il y a aujourd'hui Star Academy. C'est exactement le même principe. Et puis pendant la guerre, la radio, c'est plus que ça. C'est le compagnon, le vecteur pour être informé. Alors, c'est tellement important que le soir, entre 20h30 et 21h, on constate une augmentation très forte de l'électricité en France. C'est un pic. Parce que tout le monde écoute les Français parlent au français à partir de 1942, même si c'est totalement interdit. C'est que les Allemands et Laval ont parfaitement compris l'impact de la radio. Et on menace de mort et ou de prison, au mieux, ceux que l'on surprend en train d'écouter la radio. Alors à Radio Londres, on l'a compris, on donne des conseils. On dit par exemple, branchez-vous toute la journée sur une fréquence allemande ou sur Radio Paris. Puis le soir venu, branchez-vous discrètement sur la fréquence de Radio Londres. Les Allemands ont même essayé de voler, de détourner les postes français. Il y a 5 millions de postes en France et il y en a 2-3 millions pas déclarés. Alors, ce n'était pas possible et ils ont abandonné l'expérience.
Ils n'avaient peur de rien.
Ils n'avaient peur de rien et surtout, pendant 3 ans, ils ont été persuadés qu'ils étaient pour toujours en France. Et heureusement que la résistance s'est organisée petit à petit et heureusement que la radio a été là parce que je ne suis pas sûr que la guerre aurait duré 4 ans, elle aurait peut-être duré beaucoup plus longtemps.
Au mois de décembre 1940, une torpille allemande détruit l'ensemble des installations. L'équipe de la section française vit alors 2 mois d'improvisation et d'errance, d'un bâtiment à un autre. Les émissions ne vont-elles pas connaître d'interruption?
C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'était vraiment un lien total entre la France et l'Angleterre. C'est vrai qu'une torpille décrit, une torpille abat complètement, il y a des morts, la maison de la radio à Londres. Et pendant 2 mois, ils vont errer de studio en studio sans jamais rien dire aux auditeurs. Le combat continue, the show must go on, comme on dit en anglais alors qu'on devrait le lire en français, le spectacle continue. Et quoi qu'il arrive, les gens ne vont pas comprendre. Il y a juste une période où Radio Londres a failli cesser d'émettre, c'est en 1942. L'amiral Darlan, traître bien sûr, essaie de négocier pour les alliés du côté de l'Algérie. Et ça, De Gaulle ne le supporte pas, parce qu'on ne négocie pas avec un traître. Les Anglais veulent le faire, et là il y a une rupture. Darlan est assassiné, et au bout de 2 mois, eh bien, les Français libres, qui étaient fidèles à De Gaulle, ce qui n'était pas le cas de tous d'ailleurs, reviennent au micro de la BBC.
Un petit mot sur Pierre Dac, que évidemment vous connaissez très bien. Fil conducteur de votre vie?
Quand j'avais 15 ans, j'ai eu le privilège de connaître Pierre Dac, qui a été le premier à croire en moi. Je suis devenu son secrétaire général particulier et son neveu adoptif. J'ai déjà un père.
Extraordinaire.
Et je suis devenu son légataire universel. Et lui, il était persuadé qu'il valait mieux passer hérité à la poste que passer à la postérité. Et il avait déchiré tous ses textes. Et j'ai tout retrouvé. Et ma grande fierté aujourd'hui, c'est que tous ces textes sont dans les écoles. On n'arrête pas de me demander l'autorisation pour le Schmilblick, pour des poèmes, pour des textes de Londres, car il a été un fort résistant. Et il représente une forme d'humour, de langage, de précision qui m'est chère et à laquelle je crois plus que jamais.
Parmi vos livres, comment vous placez, vous situez ce dernier, ce tout dernier, vous avez écrit beaucoup de livres?
Une 40aine à peu près. Pour moi, c'est le plus important parce que, d'abord, c'est celui qui m'en dit le plus de mal. Ça fait 3 ans qu'au milieu d'autres activités, je consacre beaucoup d'heures et de nuits à choisir ces textes et à tout vérifier. J'ai eu la chance de travailler avec un officier de la France libre qui est un monsieur extraordinaire, qui s'appelle Jean-Louis Crémieux-Briac, qui est l'un des derniers résistants vivants. 93 ans, c'est un jeune homme. Et il a tout vérifié. Mais je n'avais pas le droit de dire la moindre bêtise. Le sujet était trop important. Donc pour moi, c'est le plus important parce qu'il va toucher des générations entières et que j'ai l'impression d'avoir fait un véritable devoir de mémoire dans un univers dans lequel il y avait un vide, ce qui me surprend encore.
Un petit mot plus personnel, votre domaine de prédilection, est-ce que c'est plutôt le spectacle, la musique, l'écriture? Qu'est-ce qui vous suit comme ça dans votre vie? Qu'est-ce qui vous porte le plus?
C'est-à-dire que ce qui me porte le plus, c'est que j'ai la chance de faire plusieurs choses en même temps, donc une activité me défatigue d'une autre. Mais j'ai une grande passion pour la chanson française, et je crois que cette chanson française, elle a été pendant des années malmenée. C'était un art mineur. Aujourd'hui, elle est un art majeur. C'est-à-dire que j'ai fait une série de télévision pendant 15 ans, Les Lumières du Musical. Aujourd'hui, il y a Shabada, il y a d'autres séries que je fais pour la télévision. Et il ne se passe pas de semaine et de mois sans qu'une école me demande une de mes émissions pour pouvoir l'étudier en classe. On est dans un vide culturel total pour la chanson française. Ce qu'on entend aujourd'hui est pitoyable. Et ce n'est pas la faute des artistes. C'est la faute des directeurs de maisons de disques qui considèrent qu'ils font du marketing. Dans le temps, quand je demandais un disque à une maison de disques, on me disait « on vous envoie le disque, le 45 tours, le CD ». Maintenant, on parle d'un produit. Or, l'artistique n'est pas un produit. Charles Trenet, que j'ai bien connu, disait « comment peut-on être directeur et artistique ?» Et pour moi, la chanson française, elle mérite d'être bien traitée, d'être mieux traitée, d'être reconnue. On doit mettre en valeur ce patrimoine. Je l'ai fait à ma manière. Et je pense que l'Académie des Beaux-Arts, si je peux me permettre, devrait le faire encore plus. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous suit dans le monde entier. J'ai deux spectacles en ce moment que je joue dans le monde entier, un sur Piaf, un sur Brel. Vous n'imaginez pas l'impact de la chanson française dans le monde. On connaît Piaf, on connaît Trenet, on connaît Aznavour, on connaît Montand. On connaît beaucoup de choses mieux que nous. Miss Tinguette, Maurice Chevalier sont connus à Londres et aux États-Unis. Et là, dans quelques jours, je vais à Shanghai pour faire un spectacle sur la chanson française à l'exposition universelle. Je peux vous dire que les Chinois attendent ça avec impatience. Donc, ne laissons pas pourrir ce patrimoine, défendons-le et surtout, mettons-le de plus en plus à la disposition des jeunes, mettons-le en valeur. On a eu de grands poètes, de grands interprètes. Il est important qu'on les fasse reconnaître par la nouvelle génération pour que cette nouvelle génération puisse avoir ses leçons pour tirer de nouveaux couplets.
Un très beau mot de fin. Merci beaucoup, Jacques Pessis, d'être venu dans cette émission nous parler de votre dernier livre, Les Français parlent aux Français, qui paraît aux éditions Omnibus. Et puis, nous espérons vous revoir très prochainement à Canal Académie pour de prochaines émissions.
Merci à vous.
Au revoir.